Et ce matin, on va commencer un nouveau livre, une nouvelle étude. Et on va faire donc ensemble au culte le prophète Daniel. Pourquoi ? Daniel, c'est un livre qui était appelé l'Apocalypse de l'Ancien Testament, parce que c'est un livre qui nous parle de l'histoire d'un homme, un prophète, mais aussi de ses amis. Et puis aussi beaucoup du futur, hein. Donc il y a plein d'images et plein de visions de l'avenir. Et c'est aussi un livre qui contient des clés pour comprendre justement la fin des temps. Si nous avions eu uniquement le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, sans le livre de Daniel, eh bien, il nous aurait manqué quelque chose. Et c'est en mettant justement Daniel et l'Apocalypse ensemble que là, eh bien, ça s'illumine. Ça devient clair, les images eh bien, prennent du relief hein, et on comprend. Dieu a voulu nous donner toutes les clés. Alors pour introduire, on peut commencer par lire les 7 premiers versets du livre. Daniel chapitre 1, 1 à 7. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnetsar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnetsar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Et je m'arrête ici. Donc le contexte nous présente la cour de Babylone. Nebuchadnetsar, alias Nabucodonosor II, vient de frapper Jérusalem et il permet la déportation de milliers de Juifs jusque Babylone. Et on peut dire que Nebuchadnetsar, c'est un des plus grands rois hein, despotiques et cruels qu'a connu l'humanité. Pour donner un exemple de sa cruauté, c'est quand même lui qui va faire égorger les fils de Sédécias en sa présence. Et puis après, il va lui faire crever les yeux devant lui hein, pour regarder un peu la finesse de la cruauté de cet homme. Et on voit que c'est un homme qui est caractériel. Il est cruel, il est violent. Et quand il prend d'assaut Israël, il est probablement encore jeune. Il a peut-être une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Mais il a déjà une expérience hein, de chef militaire. Et il va tout de suite savoir s'imposer comme souverain. Et Babylone, c'est une ville qui est dominée par l'idolâtrie. Marduk, c'est le dieu ancestral de Babylone. On lui consacre près de 53 chapelles dans la ville, dont la principale s'appelle Les Agiles. Alors, Babylone, avec Les Agiles au milieu, et c'était pour eux le centre du monde. Voilà. Chacun peut avoir son centre du monde, hein, et Perpignanais, comme les Babyloniens. Ils avaient leur centre du monde, c'était là, à Babylone. Marduk, c'était pour eux le roi des dieux. Et autour de lui, il y avait plein de petites divinités. Il y avait 300 chapelles pour les divinités de la terre, 600 chapelles pour celles du ciel, 180 autels servant à honorer la déesse Ishtar. Donc on connaît la célèbre porte d'Ishtar, là, la porte bleue avec des lions et des dragons dessus, hein, qui était reproduite. Et Ishtar, c'était la déesse de la guerre et de l'amour. Et de l'amour, eh bien, ça engendrait aussi la débauche. Donc, on pourrait dire que c'était la déesse de la débauche. Babylone, c'était la ville de tous les excès, une ville riche, où c'était un mélange de raffinement et de cruauté, un mélange de faste et d'idolâtrie. Et au milieu de cette ville, eh bien maintenant se trouvent Daniel et ses compagnons juifs. Ils étaient beaux de figure, ils avaient été pris de familles nobles, donc ils avaient la réputation d'être intelligents, d'être déjà, d'avoir de l'instruction, si bien qu'ils se retrouvent en formation pour 3 ans. Formation de 3 ans dans le but de faire d'eux des serviteurs dans le palais royal de Nebuchadnezzar. Mais on peut dire que, avec tout ce contexte, rien n'est facile quand on appartient au Dieu unique, au Créateur des cieux et de la terre. Rien n'est facile quand on a un Dieu qui n'est pas un Dieu de péché, un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté, un Dieu qui hait le mal. Et très vite, Daniel et ses compagnons vont se retrouver confrontés à la séduction, à la tentation, aux attraits du mal. Quand je cherchais un titre pour ce message, j'ai pensé à « Gain et illusion ». Gain et illusion. Parce que c'est de cela qu'il s'agissait. C'était le gain qui venait de Dieu, le vrai gain, ou bien l'illusion du gain qui venait de Babylone. Et on est toujours confronté au même problème. C'est toujours le gain véritable qui vient du Seigneur ou l'illusion du gain qui vient du monde, qui nous entoure. On nous dit on va gagner finalement, ça va être quelque chose de positif, mais tout ça c'est une illusion. Alors après des jours de marche pour parvenir jusqu'à la cour du roi, ils se retrouvent avec une abondance de mets, de vin, de viande sacrifiée aux idoles certainement, qui défilaient devant Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Lorsque j'ai commencé à écrire ce message-là, avec cette phrase, mon réflexe a été de mettre Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Parce que, je ne sais pas, c'est une habitude, nommer ces 3 hommes avec ces noms, peut-être ça sonne bien, Shadrach, Meshach, Abednego. Puis finalement, je réfléchissais et je me suis ravisé en me disant, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas mieux ces noms juifs? Les noms qui leur avaient été donnés, parce que ce n'est pas Dieu qui les a nommés Shadrach, Meshach, Abednego. C'est le chef des eunuques qui les a nommés ainsi. Et c'est comme s'il fallait qu'il n'y ait plus de traces de leur origine juive, de leur sang juif, et aussi de leur Dieu, de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans Daniel et Michaël, il y a Elohim, c'était la référence au Dieu véritable. Et puis dans Anania et Azaria, il y a Yah, ça vient de Yahvé, l'origine, le Dieu véritable. Et on essayait là, en changeant les noms, hop, on élimine le Dieu d'Israël, parce que Babylone rejetait le Dieu des Juifs. Voilà pourquoi on les a renommés. Et je me faisais la réflexion la dernière fois sur le bonheur qu'ont les enfants de Dieu, c'est vrai. C'est un bonheur d'afficher un verset dans sa maison, de mettre la parole de Dieu, voilà, un beau verset, ou même d'en mettre plusieurs. C'est une belle décoration. Pour nous, ça nous fait du bien, quoi, de tapisser nos murs de versets de la Bible. Et on voit que ce n'est pas le cas pour le monde. C'est quelque chose qui est dérangeant. Un verset de la Bible, personne ne met un verset de la Bible dans sa maison, à part des chrétiens qui aime vraiment le Seigneur. Et au contraire, on voit la réaction, rien que quand on donne un traité où il y a simplement Dieu, Jésus ou Bible, et hop, la réaction, elle est très vive, on rejette. Mais les enfants de Dieu, aiment et veulent garder la parole de Dieu et le nom du vrai Dieu devant leurs yeux. Mais finalement, cette tentative du chef des eunuques d'essayer de les dépersonnaliser, enlever leur identité en tant que juifs appartenant à l'Éternel, elle va échouer parce que nos jeunes amis vont rester fermes. On le voit dans la suite. Donc, les voilà devant une table, une belle table. Probablement une table telle qu'ils n'en avaient jamais vue jusqu'à présent. Elle était magnifique. C'était pas un repas qui était préparé spécialement pour ces serviteurs-là, ou ces serviteurs en préparation, mais c'était un repas qui venait directement de la table du roi. On prenait les mets du roi, le vin du roi, et on l'amenait à la table des jeunes hommes qui étaient en formation. Donc c'était ce qu'il y avait de plus fin, de plus beau, de meilleur dans tout le royaume. C'était l'abondance, la richesse de Babylone qui se déployait devant leurs yeux. Et on a ici une image de la séduction, de la tentation, du charme du monde, hein, des plus belles choses là qui sont devant nos yeux. Et on peut dire que la Babylone antique, elle ressemble à bien des égards à notre monde actuel. C'est vrai, le décor a changé, les divinités ont été transformées, c'est plus les mêmes, mais la séduction, c'est toujours la même. Il y a toujours, eh bien, l'abondance, le faste, l'orgueil dans notre monde. Et Dieu nous donne la définition d'un monde qui ne lui plaît pas. Un monde qui ne lui plaît pas, ça se trouve dans la première épître de Jean. C'est un passage que vous connaissez, on ne va pas le prendre, mais Jean nous parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et finalement, rien n'a changé. La terre a tourné depuis Babylone, mais c'est toujours pareil, exactement pareil. Il y a d'un côté le Dieu véritable, l'Éternel, et puis de l'autre, il y a un monde impie qui cherche à nous détourner du Dieu véritable, à nous détourner de la foi, à nous détourner de son amour. Et la manière de s'y prendre, elle est identique. Rien n'a changé de siècle en siècle. C'est toujours la même chose. On va essayer de titiller le péché de l'homme, toujours par les mêmes choses, où ça se manifeste de trois manières, par ses appétits charnels, voilà, envie, hein, par des désirs qui sont provoqués par nos sens, par le toucher, par la vue, par voilà, les sens, hein, et puis par l'orgueil de la vie, c'est-à-dire le désir de paraître devant les autres. Et Daniel et ses amis étaient dans un groupe qui était assez large, on ne sait pas combien ils étaient, peut-être plusieurs dizaines d'hommes qui avaient été choisis pour être préparés. Donc, dans ce groupe, on peut dire qu'il y a comme un mouvement de foule, hein, une direction qui est donnée. Et puis le repas arrive, c'est déposé, et puis chacun voit ça et commence à se délecter des mets, du vin, apprécier le repas. Et il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux ici qui sont stimulés. Et c'est là où nous lisons verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et on voit Daniel qui est jeune, peut-être il a 16-17 ans, mais il a déjà un caractère qui est bien formé. Et il ne se laisse pas entraîner par la foule des jeunes gens qui sont à côté de lui. Il ne se laisse pas emporter en se disant « bon, il n'y a rien à faire » ou « j'ai pas le choix, je suis bien obligé là, hein, je suis obligé, on me présente ça, il faut que je mange ». Où il ne se dit pas « Oh, la tentation est trop forte pour résister, là, c'est pas possible. » Non. Daniel pense à l'Éternel, il pense à son Dieu. Tout à l'heure, on chantait « N'avez-vous point de place ?»« N'avez-vous point de place ?» Et je réfléchissais à ça, je me disais « Finalement, qu'est-ce que c'est ne pas avoir de place pour son cœur ?» Ça commence dans la pensée. On n'a pas de place dans son cœur quand on ne commence pas à placer dans sa pensée Jésus-Christ. On pense à lui. Et c'est là où eh bien, on fait de la place dans son cœur. Et Daniel, lui, faisait une grande place à l'Éternel dans son cœur. Alors, eh bien, quand il voit tout ça, tout de suite, sa pensée se fixe sur l'Éternel. Sa communion avec l'Éternel est importante. Il est proche de son Dieu. Et devant ce qui représente pour lui une désobéissance au Seigneur, Daniel recule. Il dit non. Daniel résolu de ne pas se souiller. Darby traduit, il arrêta dans son cœur. Voilà, il arrête dans son cœur, non. Il prend la décision de ne pas suivre le mouvement, c'est-à-dire de ne pas se conformer à cette nouvelle vie babylonienne. Ne pas épouser le modèle qu'on lui donne, mais faire selon sa conscience devant Dieu. Donc c'était une décision Est-ce que ça voulait dire une décision, quand on prend une résolution et on connaît ça, hein, est-ce que ça veut dire que on ne tombera jamais ou qu'on est infaillible? Non. Mais c'est une décision. On prend une décision. On est résolu de se tenir du côté de Dieu. Et c'est ça qui est important. C'est ça que Dieu aime, que Dieu veut, qu'on prenne aussi des résolutions. Non, je ne ferai pas ça. Non, ou oui, je ferai ça. On prend des résolutions. Finalement, c'est des choix que l'on prend dans la vie. Qu'est-ce que c'est une résolution? C'est une décision ferme prise selon sa propre volonté. Je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Alors bien sûr, on sait, on ne tient aucune résolution sans l'aide de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin du secours de Dieu. Mais il faut prendre des résolutions pour Dieu, sinon on n'avance pas. La vie est faite de résolutions. Hein. On avance, on dit « je vais faire ça » et on le fait. Sinon, on ne fait rien. L'apôtre Paul nous parle de résolution. Lorsqu'il dit par exemple en 1 Corinthiens 6:12, il dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » C'est une résolution. Je refuse de me laisser asservir par quoi que ce soit. Je ne veux pas être un prisonnier, un esclave de quelque chose. Ça, c'est une bonne résolution qu'on devrait tous prendre. Alors, nos esclavages sont différents les uns des autres. Mais finalement, il faut prendre un peu de recul, dire, mais est-ce que je ne suis pas esclave de quelque chose? Regardons objectivement ma vie. Est-ce qu'il n'y a pas un esclavage quelque part? Il faut savoir identifier nos esclavages et prendre la résolution de dire, avec la grâce de Dieu, je ne me laisserai pas asservir. Non, je refuse. C'est aussi une résolution quand il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hein. Il est résolu, je ne vais pas me focaliser sur mon passé, je ne vais pas sans cesse me retourner. Non, je prends la résolution d'avancer vers le but et toujours me porter en avant. Ça aide. Hein. Ça aide vraiment à avancer dans la vie chrétienne. Quand on est résolu à, certes, on chute, certes, on tombe, certes, on fait des erreurs, hein, mais je suis résolu, je vais me porter en avant. Je vais espérer dans le Seigneur. Ailleurs, il dit, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Ici, il y a une résolution encore. Hein. Voilà, on ne sait pas tout ce que cela comprend quand il dit qu'il traite son corps. Hein. Juste avant, il dit qu'il se faisait tout à tous. Donc, il voulait gagner les hommes. Alors, eh bien, il savait se restreindre parfois pour eh bien, avoir un témoignage, pour pouvoir porter l'évangile. Mais, voilà, résolution, je serai rigoureux avec moi-même. Je vais me discipliner ma vie. À pas confondre avec un faux ascétisme. Il y a aussi une sorte d'ascétisme là qui est un peu comme de l'orgueil spirituel, hein, où on se prive et on a l'impression que c'est ce qui nous aide à nous élever. Si Paul était dur avec lui-même, il n'était pas dur avec les autres. Et c'est peut-être là où il faut savoir tirer la ligne. On a le droit d'avoir de la rigueur avec soi-même, mais qu'on ne l'impose pas aux autres. Hein. Chacun est libre de vivre sa vie chrétienne et doit la vivre selon le Seigneur. Mais pour nous-mêmes, eh bien, il faut aussi prendre la résolution. Verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc le monde de Babylone voulait formater Daniel et Daniel ne voulait pas se laisser formater. Et le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très envahissant. Vous fermez la porte, ça rentre par la fenêtre. Vous fermez la télé, ça rentre par la radio. C'est incroyable, hein, ça pénètre hein, partout. Le monde, ça franchit les contrôles parentaux hein, sur Internet. Hein. Ça franchit les filtres hein, en tout genre. Hein. c'est quelque chose qui entre même dans les églises. Ça n'a pas de frontières. Parce que finalement, c'est une maladie du cœur. Et partout où il y a des hommes, eh bien, le monde entre aussi. Hein. Quand on parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est des problèmes du cœur. Donc là où il y a des hommes, le monde entre et peut entrer. Mais quand on prend des résolutions en disant non, comme Daniel, alors on n'est pas seul. C'est ce que nous montre le verset suivant. Regardez verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et là, Dieu nous montre ici l'approbation de la résolution. Daniel est résolu. Dieu tout de suite est là. Tout de suite. Il lui fait trouver grâce. Il vient lui porter secours. Et on peut dire que c'est un fait extraordinaire qui va se produire. Parce qu'à la cour du roi de Babylone, on ne plaisante pas. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Hein. Et s'il y avait des eunuques, hein, et vous savez ce que c'est un eunuque, ben voilà, hein, c'est que les choses étaient sérieuses. Hein, et quand on était eunuque, eh bien on était voué, on était offert totalement au bon vouloir du roi. Alors un eunuque ne fait pas ce qu'il veut. Hein, et il s'en garde bien, d'ailleurs, il va exprimer sa crainte. Hein. Tous savaient ce qui pouvait advenir de quelqu'un qui ne faisait pas ce que le roi ordonnait. Alors pour ceux qui ont déjà vu, déjà lu le livre de Daniel, vous vous souvenez des colères de Nébuchadnezzar, hein, après contre les magiciens, ces sages, etc. Il se met dans une colère, il veut exterminer tout le monde. Donc on voit là, hein, c'est radical. Et pourtant, ce chef des eunuques qui connaît à peine Daniel, eh bien penche en sa faveur. C'est incroyable, incroyable. Ça nous rappelle aussi que Dieu règne, il fait ce qu'il veut. Et même il peut dépasser la crainte de certains hommes, hein, leur faire dépasser leurs craintes, hein, leurs peurs, leurs préjugés, et les amener à faire sa volonté. Dieu fait ce qu'il veut, quels que puissent être les obstacles. Néanmoins, le chef des eunuques peut-être ne veut pas emporter la responsabilité seul. Alors, eh bien, il y a quelque chose qui se fait là, c'est que ben, Daniel demande à l'intendant, et puis l'intendant, eh bien, le fait. Et finalement, ben, c'est deux cœurs qui s'inclinent en faveur de Daniel et de ses amis. À la fois le chef des eunuques qui dit rien, ferme les yeux, et puis l'intendant qui, lui, va carrément écarter les mets, les vins, et puis ne laisser que des légumes après à donner à Daniel et ses amis. À noter ici l'exemple de Daniel. On voit que Daniel, c'est le moteur, hein, c'est la locomotive du groupe. Il est un peu comme le leader. Et c'est parce que Daniel a résolu pour lui-même qu'à ce moment-là, eh bien, Anania, Michaël et Azaria vont aussi prendre la résolution. Et ça, c'est important. La Bible ne nous le dit pas, mais qu'est-ce qui se serait passé si Daniel n'avait pas résolu dans son cœur? Qui aurait résolu dans son cœur de ne pas pécher? Et on peut dire qu'il y a dans l'exemple une force qui entraîne les autres à faire ce qui est bien. Et quand on entretient une relation qui est personnelle, qui est proche, qui est vraiment dépendante du Seigneur, alors eh bien on puise la force, même si on est tout seul, de dire non. Non, je ne ferai pas ça. Non, je n'avancerai pas dans cette voie. Parce qu'il y a cette communion qui est forte avec le Seigneur. S'il y a de la distance, hein, alors eh bien on n'a pas de force dans la volonté. Mais si on est proche, alors il y a cette résolution qui entre dans le cœur. Peu importe si la foule prend une direction, non. Non, moi, je n'irai pas dans cette direction-là. Je refuse. Et on peut dire qu'il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Alors, je ne sais pas quel type de chrétien vous êtes. Les premiers, eh bien, se conforment à la température ambiante. Ça veut dire que si l'ambiance se dégrade, si la température chute, ils suivent le mouvement et puis petit à petit, eh bien, la vie chrétienne commence à s'étioler. Et si par bonheur il y a un réveil, eh bien, ils en profitent, hein, hop, ils sont emportés par la température. Et puis il y a les seconds, c'est les chrétiens thermostats. C'est plutôt ceux qui régulent la température. S'il fait trop froid, eh bien, ils vont contribuer à réchauffer, hein, par une parole qui vient du Seigneur, par la sagesse, hein, par leur exemple. Et Daniel était de ce type-là. C'est lui qui va donner la direction, il va orienter vers la sainteté, vers l'obéissance à Dieu. Et grâce à lui, ben, ses trois amis vont suivre le mouvement, hein, et vont dire, mais nous aussi, hein, on est de ton côté, on veut être saint, et on refuse de prendre les mets du roi. Alors qu'on puisse entretenir cette relation proche qui nous donne la force d'être des thermostats plutôt que des thermomètres. On va lire la suite. Lecture Daniel, versets 9 à 16. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel : Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Donc on voit le chef des eunuques redouter que Daniel et ses amis ne soient pas en bonne santé, qu'ils soient plus maigres, qu'ils aient le teint plus blafard, qu'ils soient plus tristes, hein. Malade peut-être, parce qu'il n'aurait pas mangé les mets du roi. Et on est là devant l'illusion que le monde donne. À la cour du roi de Babylone, ben, c'était établi que pour être en bonne santé, avoir un bon moral, avoir une meilleure vie, être parmi l'élite des serviteurs, eh bien, ce n'était possible qu'en s'alimentant de la table du roi, des meilleurs mets et vins. Il n'y a que comme cela que le visage ne serait pas abattu. Mais ça, c'est l'illusion. On le voit, hein, le texte nous le dit, c'est une illusion. Et pour faire le parallèle avec notre monde, on nous dit sans cesse que pour avoir une bonne santé, pour avoir un bon moral, pour être épanoui, heureux, pour trouver le bonheur, où cherchez-vous le bonheur ? On chantait tout à l'heure. Hein. Voilà. On cherche le bonheur. Hein. Eh bien, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut regarder les slogans publicitaires. Hein. Chaque fois, ça vient essayer de toucher comme ça le bonheur. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, partenaire du bonheur. C'est qui le partenaire du bonheur ? Non, je ne vous le dis pas. Il y a plein de choses comme ça hein, qui peuvent nous revenir comme ça. Bonheur. Et c'est une illusion. L'humanité vit dans ces illusions. On nous sert sur un plateau de quoi convoiter pour nos yeux, et ça tombe bien parce que la Bible dit « l'œil de l'homme est insatiable ». Il ne peut pas s'arrêter. Il y a un besoin là, ses yeux sont attirés. Alors eh bien, on nous le sert. Hein. On nous dit que l'assouvissement des convoitises, ben, ça rend heureux, et l'homme y croit. Et puis notre cœur pécheur nous fait croire aussi qu'il y a du bonheur dans la supériorité sur notre prochain, ou dans l'originalité, dans le particularisme. Et là, on voit ici l'aspect de l'orgueil de la vie. Et on le voit bien avec la mode. Qu'est-ce que c'est la mode, finalement ? La mode, bah, ça stimule l'orgueil de la vie. Hein. Il faut que ça soit toujours nouveau. Il faut être différent que l'autre. Hein. Toujours la même chose. C'est toujours la même chose, hein, parce que c'est cyclique. On le voit. Mais finalement, ça paraît toujours nouveau. C'est l'illusion de la nouveauté. Nouvelle version. Est-ce que vous avez la nouvelle version ? Très important. Nouveau gadget. Nouveau coloris. Vous ne l'avez pas, ce coloris-là. Nouvelle fonction. Nouvelle forme. Nouveau matériau. En fait, il faut du nouveau. Mais Daniel, lui, ne se nourrissait pas d'illusions. l'illusion que les mets du roi allaient faire de lui quelqu'un de plus heureux ou avec meilleur embonpoint. Il se nourrissait plutôt de la parole de Dieu. Ainsi qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui comptait pour lui, plus que tout, c'était l'obéissance à la parole. Et c'est pour ça qu'il a repoussé ces viandes qui étaient probablement sacrifiées à des idoles, et qu'il a repoussé ce vin qui faisait perdre l'esprit. Et quand on regarde Daniel, on voit qu'il repousse les illusions de Babylone, et qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit un gain qui vient de Dieu, un gain qui est véritable. Et lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande, alors, soudain, on est le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes, quand on fait ce que Dieu nous demande, quand on obéit à la parole de Dieu. Le monde, lui, fait des promesses qu'il ne tient pas, tandis que les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont « oui » et « amen ». Dieu fait des promesses et c'est « oui, amen, il les tient ». Alors, eh bien, Daniel va faire l'expérience de la bénédiction de Dieu, verset 15. Hein, « Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Et là, c'est le fruit de la foi et de l'obéissance. Hein, parce que Daniel a clairement fait confiance à Dieu. Puisqu'il a dit à l'intendant, il a dit « Éprouve tes serviteurs, tu regarderas ensuite, tu agiras selon ce que tu auras vu. » Il a confiance. Il sait. Parce que il sait que l'obéissance à Dieu fait que Dieu sera avec lui. Il ne va pas l'abandonner. Et nous aussi, il faut qu'on en soit convaincus. Si on est là devant un dilemme entre l'obéissance à la parole de Dieu ou un choix qui ne vient pas de Dieu, il faut se dire, mais Dieu sera avec nous dans l'obéissance à sa parole. Il le promet. Il le promet. Et Daniel est sûr que tout va bien se passer dans la volonté de Dieu. Il ne faut pas avoir de crainte. Dieu est là pour nous rattraper hein, dans les bonnes décisions que l'on prend. Dieu est fidèle, il ne lâche pas ses enfants. Mais il y a le pas de la foi. Hein. Daniel fait ce pas de la foi. J'ai confiance, je mangerai que des légumes et tout se passera bien. Mais ce n'est pas tout. On voit que Daniel même a un gain bien supérieur aux illusions de l'abondance de la cour de Babylone. Daniel 1, 17 à 21, on va lire la fin. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes aux termes fixés par le roi pour qu'on les lui amène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Et là, ces jeunes hommes, de l'intelligence, de la sagesse, 10 fois supérieurs, imaginez, à personnes qui étaient les plus sages, normalement, du royaume, hein, 10 fois supérieurs. Et même, et c'est certain, Dieu ne donne pas les mêmes capacités, hein, la même intelligence ou la même vivacité hein, d'esprit à chacun. En tout cas, ce que nous savons, c'est aussi que dans l'homme, comme le dit Élihu, c'est l'esprit, c'est le souffle de l'esprit du Tout-Puissant, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Donc là, on a des jeunes hommes, tout jeunes, mais qui sont 10 fois supérieurs à tous les érudits, parce que Dieu est avec eux, parce que Dieu les bénit. Et le choix d'obéir à Dieu, c'est toujours le choix gagnant. Le gain est dans l'obéissance. Même si on ne le voit pas forcément tout de suite, hein, où on peut avoir l'impression que où est Dieu ? Où est Dieu ? Mais Dieu va être là. Il nous rattrapera, sans aucun doute. Hein. Mais il y a ce pas de la foi. On avance, on ne sait pas, on avance. Hein. On fait confiance. Alors on peut peut-être dire qu'il y a un bon et un mauvais anticonformisme. L'anticonformisme dans l'extravagance ou dans une peut-être une originalité un peu démesurée ou de l'artiste peut-être, hein, ou du rebelle à la société, c'est pas forcément un bon anticonformisme. Jésus s'est fait homme parmi les hommes, et quand il était dans la foule, on pouvait pas dire « Oh ben, pardon, c'est Jésus, je le vois tout de suite, il est pas pareil. » Non, il était comme les hommes, il était pareil. Donc lui, il cherchait pas à être anticonformiste. On ne pouvait pas le distinguer. Mais Dieu nous demande par contre d'être anticonformiste dans le sens de ne pas prendre la forme du monde. Et on a un passage qui nous le dit clairement, c'est Romains 12, verset 2. On peut prendre ce dernier verset, Romains 12, verset 2. Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on peut dire que c'est ce que Daniel fit. Il est arrivé dans cette société babylonienne et immédiatement, on a essayé de le mettre dans le moule babylonien, dans les coutumes babyloniennes, mais Daniel n'a pas accepté le moule. Il a plutôt recherché quelle est la volonté de Dieu. C'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que Daniel était un rebelle. On voit qu'il a servi dans le royaume de Babylone sous plusieurs règnes, rois, et c'était un des plus excellents serviteurs du royaume. Donc, ce n'est pas qu'il était rebelle. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, alors là, il était intransigeant. Il obéissait à la parole de Dieu. Et dès qu'on le mettait dans un moule qui n'était pas selon les Écritures, alors là, non. Là, je refuse. Il ne désobéissait pas à la parole de Dieu. Mais il était anticonformiste par rapport au monde. Et nous aussi, il faut l'être dans ce sens. Ne pas accepter le moule du siècle présent, mais au contraire se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire par la lecture des Écritures, que le moule de Dieu soit proche de nous, qu'on rentre dans le moule de Dieu et qu'ainsi on fasse la volonté de Dieu, qu'on la discerne et qu'on la fasse. Il n'y a que comme cela qu'on sera dans les gains qui viennent de Dieu et pas dans les illusions qui viennent de notre monde. On va s'incliner dans la prière.